quand vous êtes dans un avion, on vous dit, avant de mettre le masque en cas de dépressurisation, avant de mettre le masque à votre enfant, vous mettez d'abord le vôtre. Parce que si vous êtes évanoui, de toute façon, vous n'aiderez personne. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnes qui s'occupent des autres.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue dans Singulièrement Psy. Nous sommes 5 étudiants en master de psychologie et nous nous sommes réunis pour vous proposer de rencontrer avec nous des psychologues en exercice. Ils et elles vont nous dévoiler leur parcours, leurs doutes, mais aussi leurs ressources. Les 3 voix que vous entendrez seront celles d'Ember, de Florian, puis de Romain. Ils et elles ont répondu à chacune de nos questions, à tour de rôle, de manière différente, et donc de manière singulière. Nous pensons vous proposer un avant-goût de la diversité et de la complexité de notre métier. Merci de partager avec nous cette expérience. Vous êtes à l'écoute de Singulièrement Psy. Épisode 2, avoir un masque à oxygène.
Du coup, je m'appelle Amber Becquet, j'ai 25 ans. Je suis diplômée de psychologie interculturelle de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Et je suis diplômée depuis septembre 2023. Et aujourd'hui, je bosse pour l'éducation nationale. Je suis psychologue pour l'éducation nationale.
Je suis Florian Poiré. Je suis psychologue clinicien, psychothérapeute. Et ça fait depuis 2019 à peu près là que je suis en libéral. Sinon, avant, j'étais salarié dans plusieurs domaines différents. Dans une clinique psychiatrique, en addictologie, à la protection judiciaire de la jeunesse et du coup dans le domaine de la santé, clinique privée.
Alors donc je suis Romain Gatelet, je suis psychologue depuis une quinzaine d'années. Il se trouve qu'à la fac je suis allé jusqu'à faire une thèse, donc j'ai aussi en théorie cette casquette de chercheur. Je travaille donc en Loire-Atlantique depuis presque 3 ans maintenant. J'ai fait que de la psychiatrie adulte.
Il y a une question qui intrigue aussi bien les étudiants en psycho que les personnes de notre entourage en général, c'est de savoir si les histoires et les témoignages, souvent lourds, des patients et des personnes que tu rencontres, est-ce que ça a un impact sur le psychologue ? Donc est-ce que ça a un impact sur toi et comment est-ce que tu le vis ?
Quand je travaillais dans la migration, au début, ça m'a beaucoup atteint, donc ça a été difficile. Puis après, au fur et à mesure du temps, là je parle de mes stages parce que j'ai fait 2 ans de stage au même endroit et j'ai eu mes propres patients, donc je commençais déjà un peu à avoir une pratique pendant mes stages. Mais on apprend en fait à se protéger, à se mettre un peu des barrières émotionnelles et vraiment accueillir la parole. Donc, quand c'était en migration, j'arrivais à rentrer chez moi et un peu comme laisser les témoignages au travail. Parfois, ça arrivait que non, mais généralement, ça allait. Et depuis que je travaille dans l'éducation nationale, après, ça fait que 1 mois. J'ai du mal à m'endormir parfois. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que là, je suis en vacances scolaires. Je prends beaucoup le temps de réfléchir et je me rends compte qu'il faut que je mette plus de distance comme je faisais en migration. Parce que là, c'est un nouveau travail. On a beaucoup, beaucoup de liberté à mettre en place ce qu'on veut. En fait, on pratique vraiment comme on veut. On peut proposer des ateliers, on peut proposer vraiment ce qu'on veut. Et moi, j'étais partie dans plein d'idées. Et en fait, je me suis rendu compte que je me protégeais pas assez et je me suis donnée trop vite dès le début et je me suis rendu compte que le soir, j'y pensais. J'aurais dû dire ça, là j'ai pas réagi à ça. Et on aimerait retourner en arrière mais on peut pas et en fait c'est dur de le sortir de sa tête. Et parfois ça m'empêche de dormir parce que on se pose aussi des questions à comment aider ce jeune. Parce qu'il y a des jeunes où je leur propose de se revoir. Et je me dis, qu'est-ce que je vais proposer pour la prochaine fois ? De quoi on va parler ? Et faut que j'arrive à relaisser le travail au travail et quand je rentre chez moi, lâcher prise, quoi.
aussi les histoires et les témoignages des patients qui peuvent être souvent lourds ont un impact. Et comment toi tu vis ça?
Oui. Bah du coup c'est, enfin c'est humain quoi, c'est inévitable. Alors après il y a multiples facteurs qui rentrent en compte, la fatigue, quel type de service, notre propre vie, bah le transfert, le contre-transfert forcément. D'où le fait que j'ai un, enfin que je parle souvent là du le fait d'avoir un psychologue personnel, tout ce travail personnel. Moi de mon côté j'avais beaucoup minimisé le côté corporel. Notre corps assiste aussi à tous les rendez-vous qu'on a avec nos patients. Ça, du coup, je m'en aperçois plus ces dernières années. Je me t'ai beaucoup plus focalisé sur le côté psychique, élaboration intellectuelle, etc. J'avais mis la question du corps de côté. Et du coup, oui, pour moi, c'est inévitable. Mis à part d'être un robot, d'être une machine, là, ok, ça n'aura pas d'impact. D'où l'importance du cadre. Pour pas se perdre dans tout ça.
T'as des exemples toi sur comment tu as vécu des choses lourdes, quel impact ça a pu, comment t'as pu le vivre toi?
Bah, je dirais le côté mort et le côté fatigue. Ça m'avait beaucoup marqué en stage de cancérologie où du coup là le sujet de la mort il était omniprésent. J'avais une fatigue beaucoup plus importante et limite un peu anormale. Enfin, quand je dis anormal, c'est qu'il y avait des jours, en gros, je rentrais du stage et j'allais me coucher et il était 20h, quoi. Le fait que ça soit très morbide, très mortuaire, très mort, très maladie et très souffrance, du coup, je ressentais l'impact sur mon corps et du coup, j'étais extrêmement fatigué. Alors bon, maintenant, je suis plus sensible de la même manière et je suis plus sensible aux mêmes problématiques et... Mais du coup, encore maintenant, oui, j'ai des impacts corporels. Déjà, par exemple, j'ai remarqué que je me crispe et je me tends souvent. Parce que déjà, je contrôle l'image que je renvoie près du patient. Déjà, je vais pas m'affaler. Enfin voilà, j'essaie d'être assez contenant. Et ça, du coup, ouais, je le sens dans mon dos... Je sens des contractures. Après, moi, personnellement, je ressens plus les effets corporels que psychiques parce que les effets psychiques, j'ai quasiment jamais envie de m'effondrer en pleurs pendant un entretien, par exemple. Je peux ressentir des émotions, heureusement, mais ça ne me déborde pas. La question du corps, par contre, ça me déborde plus, ouais. Et du coup, encore maintenant, la fatigue. Du coup, j'essaye de ne pas mettre du psychocorporel partout, du psychosomatique partout, mais je ressens que la fatigue, elle arrive plus vite ou elle est plus intense qu'elle ne devrait être. Et surtout quand on travaille, je trouve, autour de la traumatologie et qu'on entend des horreurs, pour parler clairement. Quand on parle des traumas, on n'est que sur des sujets lourds, rarement sur des sujets très légers. Et ça, oui, parce que quand on fait plusieurs dans la même journée, je ressens que c'est lourd et ça, je le sens physiquement et même, par exemple, au niveau du ventre. Ça, c'est un de mes indicateurs où je me dis, oula, Florian, il faut prendre soin de toi ou c'est une journée dure ou va falloir après... Enfin, que ça a un impact. Ça, c'est souvent chez moi un signe que j'ai fait beaucoup d'entretiens émotionnels ou j'en ai fait trop, entre guillemets, même si ça, on peut pas trop le prévoir d'avance. Mais l'impact, il peut être aussi psychique ou ça peut jouer sur le moral. Ça peut m'arriver, mais ça dépend des personnes. Mais moi, en tout cas, je trouve que chez moi, personnellement, ça sera plus un impact corporel, ouais.
Une question qui revenait souvent, c'était de savoir si les témoignages, les histoires des patients impactent les psychologues, comment et comment toi tu le vis d'avoir ces personnes en souffrance qui viennent te livrer des choses.
Alors j'ai, en fait, j'ai envie de dire, j'espère que ça les impacte. En tout cas, que ça les touche un minimum. Et si ça les touche un minimum et qu'ils ont gardé cette disponibilité-là, ça m'étonnerait qu'on puisse travailler en tant que psychologue éternellement en se confrontant à des personnes en difficulté sans que ça ait jamais d'impact sur soi. Je pense que ça serait mauvais signe, en fait, si ça n'avait pas d'impact sur nous. La question, c'est jusqu'où ? Jusqu'où il est tolérable cet impact ? Jusqu'où on est capable de le supporter ? Et comment on est capable de faire au fond ce qu'on demande aux patients de faire ? C'est-à-dire de aussi faire vivre une partie qui est heureuse, qui est joyeuse, qui est vivante, qui nous nourrit en fait et nous permet de contrebalancer les choses. Moi je compare souvent ça, je trouve que c'est toujours une manière de prendre un peu de distance avec les policiers ou les forces de l'ordre de façon générale. Ils passent leur journée à se confronter au pire de l'humanité. Vraiment tout ce qui peut se faire de pire en matière d'humanité. Et j'ai pas travaillé au milieu d'eux, mais enfin j'imagine que les moments de lumière où ils voient des trucs sympas, où il se passe des trucs sympas, ils doivent pas être majoritaires, quoi. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que nous, en tant que psychologues, on est confrontés tous les jours à des trucs horribles. D'ailleurs, des patients souvent nous disent ça. On dit, ça doit pas être facile pour vous. Ils s'inquiètent pour nous des fois. Enfin, je pense qu'ils doivent percevoir des fois des choses. Mais la réalité, c'est que pour nous, en tant que psychologues, on ne passe pas nos journées à parler de trucs horribles, quoi. Loin de là. On a en fait très souvent des sujets qui sont plus du côté de la vie, quoi. Je vais le résumer comme ça, mais qui sont plus du côté de la vie. Et du coup, on n'a pas non plus des journées où on enchaîne toutes les histoires les plus catastrophiques possibles, etc. Une autre remarque que font les patients des fois, c'est... vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Et je leur réponds systématiquement la même chose. Je leur dis, mais si je devais avoir vécu tout ce que les personnes que j'accueille ont vécu, pour les comprendre, je ne serais plus là. En fait, ce n'est pas réaliste. Il n'y a pas des champions comme ça, de la résilience, qui se remettent de tout et quoi qu'il arrive. Quoi. Enfin, je leur explique en général que quand bien même j'aurais vécu la même chose, j'aurais mon expérience et que ça ne dit rien de ce qu'eux ont vécu. Ça serait hyper arrogant de leur dire « c'est bon, je sais, moi j'ai vécu la même chose, j'ai pas besoin de vous écouter ». Si vous regardez dans les séries américaines, c'est ce qui se passe systématiquement. chaque fois qu'il y a un enfant ou une personne qui a vécu des violences, il y a un des héros de la série qui dit « je sais, moi aussi j'ai vécu ça ». Et parce que les Américains sont beaucoup comme ça, sont beaucoup dans l'entraide, dans la communauté, avec la paire aidance au fond. Et donc c'est hyper intéressant. On ne peut pas tout avoir vécu, donc nécessairement on est obligé de recevoir la souffrance des autres et puis d'essayer de se représenter ce que ça peut être, de comprendre ce qu'ils ont pu traverser. Et donc des fois, oui, ça va venir heurter, mais j'ai envie de dire c'est plus l'accumulation que l'histoire unique. J'ai pas le sentiment que j'ai des histoires qui me restent comme ça en tête, que j'oublie jamais, auxquelles je repense. Enfin, c'est pas. Bon. Je dis ça, et puis en même temps que je dis ça, j'en ai plein qui me viennent en tête. Mais c'est pas des histoires qui me hantent. Il y a ce qu'on appelle maintenant le trauma vicariant. Si je commençais à faire des cauchemars sur ce que mes patients ont vécu, si je commençais à avoir des flashbacks de situations que j'ai pas vécues, mais que j'ai entendu être vécues, je serais probablement allé trop loin dans mon exposition personnelle à toutes ces situations. Et peut-être que ma sensibilité personnelle aurait besoin d'être un peu... aurait besoin que je prenne soin de moi plus longtemps et davantage avant de pouvoir me réexposer à tout ça. Mais je crois pas, enfin oui, tout ça pour dire que je crois pas qu'on puisse travailler sans être touché. Ça a forcément un impact. Maintenant, un impact, ça veut pas dire qu'on va finir tous traumatisés. Et en fait, c'est le gros du boulot du psychologue aussi, hein, c'est d'apprendre à s'écouter. Hein. C'est d'apprendre à savoir ce qui se passe en soi, et d'évaluer justement est-ce que je dois continuer ou est-ce que là faut que j'arrête pour prendre soin de moi et m'occuper de moi quoi.
Ok, donc prendre soin de soi en tant que psy, un des éléments, c'est de prendre de la distance avec justement les histoires et les récits.
Je pense prendre de la distance quand on rentre chez soi, pour moi, c'est essentiel parce que sinon, on y pense tout le temps et on tombe un peu dans un cercle vicieux. Mais moi, je prends pas de distance avec les patients quand ils me racontent quelque chose. Je fais juste attention à ne pas me laisser déborder par ce qu'ils me racontent. Mais pour moi, c'est important de pas cacher ce qu'on ressent quand même. Parce que parfois, ça peut vraiment être bien accueilli quand le patient voit qu'on ressent quelque chose à ce qu'il nous raconte. On légitime un peu son discours et complètement. Donc, pas prendre la distance de ce côté-là, mais prendre de la distance à si on veut pouvoir continuer à écouter la personne et l'accompagner, il faut quand même mettre une certaine distance de je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'aider et ne pas se laisser submerger en fait. Sinon, j'ai l'impression que si on est submergé, on ne pourra pas l'accompagner quoi. C'est un peu comme se mettre une carapace. Je ne sais pas du tout l'expliquer, mais c'est, par exemple, mes premiers entretiens avec mes patients, c'était dans mon stage de L3, donc j'étais pas toute seule, mais j'étais observatrice. J'ai pleuré parce que c'était trop dur, ce qu'ils racontaient. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire, mais pas de cette manière-là. Donc, j'ai appris à commettre un bouclier. Et c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées en master, où on discutait beaucoup avec les profs parce qu'on leur disait, est-ce que c'est inquiétant de rien ressentir quand un patient te raconte les pires atrocités? Et en fait, on nous explique que c'est comme des mécanismes de défense. Enfin, c'est quelque chose qu'on met en place pour pouvoir accueillir la parole et ne pas justement être submergé. C'est très difficile à expliquer de comment on le fait, parce que c'est quelque chose où je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire, donc il faut que j'y arrive. Et en fait, c'est venu tout seul. Mais parfois, ça se casse la gueule. Ça m'est déjà arrivé de pleurer, enfin, on pleure pas à gros sanglots, mais d'avoir les larmes aux yeux. Et les fois où ça m'est arrivé, ça a été très bien accueilli par les patients. Et on était très bien suivis, et en fait, ça a été accueilli par la directrice. Enfin, on avait un peu peur de perdre cette légitimité de psychologue. Et en fait, elle nous dit, mais. Enfin, tout le monde nous dit. Enfin, c'est normal, on n'est pas des robots, on parle avec des humains et nous-mêmes, on est des humains, on a des émotions et parfois, c'est trop. Il y a des sujets aussi qui nous touchent plus que d'autres par rapport à notre propre vie, par rapport à notre propre vécu. Et oui, il y a certains patients où on va plus prendre à cœur ce qu'ils nous racontent, d'autres un peu moins. Mais c'est très dur à expliquer comment on le fait. Ça se fait, enfin moi, pour ma part, ça s'est fait naturellement. C'était vraiment ma manière de faire ce que j'ai envie de faire en me protégeant et en pouvant me laisser l'espace de le faire, en fait. De mettre un peu ce bouclier-là d'écoute et de pas tomber en sangloter à chaque discours.
Et est-ce que prendre soin de soi en tant que psy, ça veut dire prendre de la distance avec le patient, avec le récit du patient?
Bah, après, prendre de la distance, oui. Enfin, ça me semble obligatoire, parce que sinon, on pète un câble au bout de 2 semaines, enfin, voire même au bout d'une semaine. Quand on voit, je sais pas, un patient par heure pendant plusieurs jours, si on prend pas de distance, on est flingué en quelques jours, quoi. Donc la distance, elle est obligatoire, parce que si les problèmes du patient deviennent nos problèmes, on va avoir beaucoup de problèmes. Et du coup, on va pas tenir très longtemps. Donc oui, c'est un travail d'équilibre entre prendre de la distance et en même temps ne pas être non plus antipathique et être en mode vos problèmes, c'est vos problèmes, en gros, démerdez-vous. C'est de trouver cet équilibre-là, mais justement, d'où l'importance d'être attentif à soi et de se dire, bah tiens, là, je ressens beaucoup d'émotions. Ça, c'est des choses que je partage aux patients, par exemple, des entretiens ou des premiers entretiens où on ressort très lourd et ça a été hyper lourd. Ça, c'est des choses que je verbalise. Par exemple, je peux dire aux patients... Oh, bah ouais, bah ça fait beaucoup quoi. Enfin voilà, ça fait. Ça, c'est des choses que je peux partager. Sinon, oui, on est contaminé par la souffrance des personnes et on fait fusion quoi. Et ça, ça passe aussi par le cadre. Justement, tu me posais la question tout à l'heure. Moi, la distance que je mets entre le patient et moi, elle n'est pas que symbolique, elle est aussi réelle. Je mets une certaine distance entre le patient et moi. Je ne suis pas collé au patient. Il y a des psys qui sont très proches, d'autres qui sont moins proches. Enfin, voilà. Moi, j'ai besoin de mettre une certaine distance entre moi et le patient parce que ça me protège. Et aussi parce que je projette que ça peut aider certains patients, surtout patientes, sur le fait que je sois un homme et les traumas sexuels. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui ont peur de consulter, enfin qui ont de l'appréhension de me consulter parce que je suis un homme. Et de mettre une distance, j'imagine que ça peut les aider.
Est-ce que prendre soin de soi en tant que psy, c'est prendre de la distance avec le patient ou avec son récit ? Il me semble que tu as commencé un peu à y répondre, mais...
Mais je peux peut-être y répondre un peu directement, parce que pour le coup, j'ai une réponse simple. C'est de dire prendre de la distance avec le patient et son récit à long terme, oui. Sur le moment, non. Parce que je pense que sur le moment, on est un peu obligé d'être là quand même, quoi. Et quelque part, dans l'idéal, si on ne peut pas être là ce jour-là pour lui... Faut peut-être pouvoir l'arrêter en fait et lui dire attendez là aujourd'hui moi je peux pas vous accueillir à la hauteur de ce que ça nécessite là ce que vous êtes en train de me dire quoi. Et bon, c'est pas facile à faire hein, d'arrêter quelqu'un qui est lancé pour lui dire hop c'est pas le bon moment et pas pour vous pour moi c'est quand même compliqué quoi.
Tu l'as déjà fait? Ça t'est déjà arrivé?
Ça m'est arrivé de raccourcir des entretiens en sentant que j'étais plus dispo. Des fois, je dis que la plus-value d'un soignant, de façon générale, mais d'un psychologue aussi, c'est de faire différemment des autres. C'est-à-dire, si on fait la même chose que tous les copains autour, on n'a pas de plus-value. Mais quand on va faire quelque chose que les autres n'auraient pas fait, quand on va dire quelque chose que les autres n'auraient pas dit, bah là, on a une vraie plus-value. Et par exemple de s'autoriser à dire je suis fatigué aujourd'hui, je suis pas disponible, peut-être que vous aviez des choses à me dire, mais on va peut-être attendre le meilleur moment pour pouvoir en parler, c'est faire un truc que personne ne fait en fait. Hein. C'est-à-dire que moi je n'ai pas l'impression, alors, c'est peut-être juste mon expérience, mais j'ai pas l'impression qu'on s'autorise même à dire ça à ses amis, quoi. Alors ma boussole à moi, je sais pas, faudrait vérifier. Au niveau théorique et définition, c'est ce que je veux dire est tout à fait exact. Mais ma boussole à moi, c'est de dire l'empathie, c'est tant que je suis capable de me représenter ce que la personne vit, ce que je suis capable de le comprendre. La compassion, c'est quand je commence à le ressentir. C'est quand je commence à partager, parce que je crois que l'étymologie latine est celle-là, c'est-à-dire je vais partager l'émotion avec la personne. Si je commence à partager l'émotion, c'est que probablement je suis trop loin. Alors c'est pas grave si j'y vais de temps en temps. Je vais faire la caricature, mais si une jeune femme me parle des violences sexuelles qu'elle a vécues, enfin jeune ou pas jeune d'ailleurs, que je commence à être en colère, ça c'est mon boulot de psychologue de le décoder. Est-ce que cette colère vient de moi? Est-ce que ça vient de la personne? Est-ce qu'au fond je suis en train de ressentir ce qu'elle ne ressent pas? Est-ce que je suis en train de partager cette émotion avec elle parce qu'au fond elle est furieuse et elle a cette colère et etc. Et donc à ce moment-là ça va être la question, est-ce que je suis dans l'empathie, est-ce que je suis dans la compassion, est-ce que je suis en train de me laisser entraîner dans quelque chose. Bon, et donc moi ma boussole elle est là, de dire est-ce que je comprends ou est-ce que je suis en train de partager l'émotion. je pense qu'on a, pour revenir sur cette sensibilité, on est tous plus ou moins touchés par certains sujets. Et c'est lié à notre histoire, à notre parcours, enfin. Et probablement que moi, ces histoires-là me touchent, mais que j'arrive à les encaisser. Peut-être que d'autres seraient plus durs. Moi, j'accueille la plupart du temps des personnes qui ont arrêté d'être victimes. C'est, ça leur est arrivé, c'est fini. Alors, bon, avec tous les problèmes du trauma, c'est-à-dire que dans leur cerveau, c'est pas nécessairement fini, mais bon, ça fait partie des soins, justement. Mais en général, j'arrive après coup. Et je pense que ça serait beaucoup plus dur pour moi d'être confronté trop régulièrement à des personnes qui sont encore victimes, c'est-à-dire qui continuent à subir des violences. Notamment des violences. J'ai encore ces histoires qui me reviennent. Et c'est tentant, des fois, quand on est psychologue, de charger les parents, quoi. C'est-à-dire, de toute façon, c'est vos parents qui ont mal fait leur boulot, quoi. Et de faire alliance comme ça en disant, voilà, nous, on est du côté des gentils, et puis vos parents, c'était les méchants, quoi. Ça résout rien, en fait, hein, de faire ça. C'est très tentant, mais ça résout rien parce que, de toute façon, leurs parents, ils sont là, en général. Enfin, par du temps, ils sont encore là. C'est ça qui est assez dingue. C'est que, malgré que les personnes étaient très maltraitées, très carencées, bah, les parents, ils n'arrivent pas à y renoncer si facilement que ça, quoi. Donc on peut tirer, nous, autant qu'on veut, en leur disant « Séparez-vous de vos parents, ça vous fera du bien. » C'est des parents, ils sont là. Donc le travail, il est probablement pas d'aller dire vraiment, votre mère, c'était une catastrophe, votre père, c'était un salaud, et du coup, il faut que vous arrêtiez de les voir et ce sera réglé. Mais ça peut m'arriver de le penser, en fait. Et donc je vais avoir ce débat de qu'est-ce que je dis ? Est-ce que je réagis ? Est-ce que je dois dire quelque chose ?
On parlait de la distance et du prendre soin de soi. Au global, sinon, comment tu dirais que tu prends soin de toi ?
Mais ça revient un peu à ce que j'ai dit avant dans ma formation où je ne me donnais pas non plus à 100% parce que j'adorais mes passions à côté. J'adore ma vie en dehors du travail. Et donc je prends soin de moi en voyant mes amis, en lisant, et en fait je prends vraiment plaisir à faire autre chose. Quand j'ai fini mon master, pendant un mois je voulais plus entendre parler de psychologie, mais j'ai fait un burn-out et ça m'a fait un bien fou, et après j'étais prête à revenir. Je pense que prendre soin de moi, c'est aussi des fois des coupures et de revenir un peu à ma vie hors psycho. Et aussi, quelque chose où j'ai pris du temps, c'est un suivi aussi psychologique que je vais bientôt commencer. Et je pense que ça peut être pas mal aussi pour un peu extérioriser tout ce qu'on a entendu. J'ai beaucoup entendu qu'un psy doit voir un psy. Et un jour, j'ai un élève qui m'a dit « Mais du coup, ça s'arrête jamais parce que... toi, tu racontes au psy et le psy raconte à un psy. » Et j'étais « Ah oui, je pense qu'il n'y a peut-être pas de psy dans ce monde qui ne voit pas de psy. » C'est une boucle, on est tous liés. Mais je pense qu'un suivi, ça peut être vraiment bien. Et pendant mon master, ça a été un peu mes tutrices, mon exutoire. Et après, quand on se retrouve tout seul, faut trouver quelqu'un d'autre, quoi. Donc, je commence un peu tard, mais je vais commencer. Et aussi, je sais que prendre soin de moi, c'est aussi mon compagnon, hein, je lui parle beaucoup. Et il m'écoute beaucoup. Je pense bien s'entourer et pas submerger les autres avec nos histoires, mais avoir quelqu'un qui peut être là quand on a besoin de parler. Être bien entouré, c'est bien aussi. Et aussi, beaucoup parler avec mes amis psy. Ça change tout. C'est vraiment bien. Je pense que ce qui peut être bien aussi, c'est les professeurs qui sont d'accord pour suivre. J'ai des professeurs de master qui sont d'accord pour continuer à nous parler pendant nos premières années ou plus si affinité. Mais d'être entourée de professionnels, ça peut vraiment aider parce que des fois, quand j'ai des doutes, j'appelle mes copines psychologues et leur avis compte beaucoup. Enfin, ça me soulage d'avoir un autre avis. Voilà.
Et alors du coup, comment toi, en tant que psychologue, du coup, comment tu prends soin de toi ? Est-ce qu'il y a des techniques plus efficaces que d'autres pour toi ? Est-ce qu'il y a des moyens ? Enfin, comment tu prends soin de toi, quoi ?
Je dirais faire des pauses, très classique, faire des pauses, prendre l'air. Alors bon, bien sûr, du coup, je dis des choses que je ne fais pas forcément. Je trouve que faire des pauses entre les patients, si on peut, c'est bien, même quelques minutes. Je trouve que d'enchaîner, enfin, moi ça m'aide à archiver, archiver, ça m'aide à ranger, on va dire, parce que c'est rarement archivé, mais ça m'aide à ranger le, entre guillemets, le dossier du patient et de me dire, bah voilà, hop, tu passes à autre chose et tu passes au prochain patient. Enfin, en tout cas, voilà, qu'il y ait une coupure. Le sport, alors ça me fait rire en le disant, mais quand même, physiquement, ça a souvent quand même des effets positifs sur le corps. Le sport, c'est important, je pense. Enfin, ça peut être ressource.
Alors, plutôt des choses que toi tu fais, toi, pas le truc idéal.
Bah, moi, je trouve que c'est pas idéal. En vrai, il faut. Alors après, c'est pas simple de prendre soin de soi. Alors moi, sinon moi. Alors moi, je pratique la pause, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça m'aide. Après, moi, personnellement, c'est tout le, bah, du coup, bah, pareil, le suivi psy perso, supervision. Moi, je prends soin de moi comme ça. Moi, je suis assez cognitif. Du coup, mes questionnements aussi, bizarrement, enfin, mes questionnements sur le travail, mes questionnements sur les patients, etc., ça peut m'aider à prendre soin de moi. Et pas me sentir trop dépassé, même si c'est un peu paradoxal ce que je dis. L'humour, oui, si, je pratique beaucoup l'humour. avec les collègues, etc. Voilà, j'utilise beaucoup l'humour pour prendre soin de moi et aussi pour dédramatiser et aussi pour rigoler, hein, clairement, même avec les patients. L'humour, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour prendre soin de moi. Bah, et puis sinon, pas grand-chose qui me vient. Si j'allais dire manger, mais ça, c'est pas vraiment prendre soin de soi des fois. Mais après, c'est se faire plaisir. Mais bon, c'est pareil, il faut garder un équilibre, se faire des petits plaisirs. Parce que si on se fait un petit plaisir à chaque patient pour rééquilibrer le fait que c'était dur, psychiquement, bah oui, on passe plus aux portes, quoi. Après, oui, c'est marrant, ça me semble un peu compliqué comme question alors que c'est simple. Mais là, comme ça, c'est ça qui me vient.
Par rapport à cette implication que toute la souffrance qui peut être livrée, comment toi tu prends soin de toi ? Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi face à toute cette souffrance qu'on te livre ?
Je disais tout à l'heure qu'on fait ce qu'on demande ou ce qu'on propose en tout cas aux personnes qu'on accueille de faire et qui est effectivement de prendre soin de soi. Même si à côté on est confronté à des choses difficiles, de continuer à prendre soin de soi. Et moi j'ai de plus en plus ce sentiment que des fois il faut leur démontrer, c'est-à-dire pas juste leur dire. Et ça m'est arrivé là récemment. Je le faisais pas du tout avant. Mais ça m'est arrivé récemment de dire aux patients, bah, venez, on va marcher. Alors, ce qui pose probablement plein de problèmes d'assurance, je sais pas. Mais il se trouve que moi, je travaille dans un cadre qui est quand même génial. Enfin, c'est mon côté parisien qui dit ça, mais moi, j'ai un côté... je travaille dans un CMP où vous faites 100 mètres, vous avez vu sur la mer, quoi. Donc, c'est quand même le luxe, quoi. Et des fois, j'essaye de leur partager mes ressources. C'est-à-dire que moi, quand j'ai besoin de me reposer, quand j'ai besoin de me changer les idées, de passer juste 5 minutes au bord de la mer à regarder, à écouter, à sentir, ça fait du bien. Alors c'est une de mes ressources à moi. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement la partager et que c'est la seule. Mais des fois, j'essaye de leur démontrer qu'il y a des choses comme ça. Moi, je crois que une de mes ressources, c'est d'être seul, en fait. C'est de passer du temps seul. Mais il y a plein de gens pour qui c'est effrayant d'être seul, enfin, pour qui c'est insupportable. Je fais souvent, je donne des formations aussi, et souvent, en formation, on parle de plein de trucs. Mais quand je suis formateur et que je suis à l'autre bout de la France, le soir, je vais dîner tout seul, en fait. Donc, moi, c'est une vraie ressource pour moi de pouvoir être seul. Ça ne veut pas dire que c'est une solution universelle, loin de là, quoi. Donc, si je dois donner un conseil, c'est en fait, c'est exactement ce que je dis aux patients, c'est qu'est-ce qui a déjà marché ? Qu'est-ce qui, dans votre vie, a déjà été une ressource ? Et de commencer par là, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait du bien dans votre vie, ou qu'est-ce qui vous a fait du bien, que peut-être vous avez perdu de vue, parce que des fois, on perd de vue, des trucs comme ça. Et avec zéro tabou, quoi. Parce que, pour le coup... Il n'y a rien à juger là-dessus. Si c'est d'aller faire du tricot, bah c'est d'aller faire du tricot. Si c'est d'aller faire du foot, c'est d'aller faire du foot. Si c'est d'aller marcher tout seul au bord de la mer, bah ça marche aussi. Et en fait, il n'y a pas de jugement de valeur ou de meilleure solution que d'autres. C'est vraiment personnel. C'est moi, qu'est-ce qui me fait du bien. Si faire des études de psycho, si aller travailler, c'est tous les jours rentrer en se sentant mal... Ça marche pas, en fait. C'est qu'il y a un truc qui coûte trop. Alors, ça veut peut-être dire que c'est pas le bon moment, simplement. Peut-être que ce sera jamais le bon moment. Mais peut-être que, du coup, il faut d'abord prendre soin de soi avant de s'occuper des autres. Et ça, c'est un peu ma marotte. C'est ce que je répète en permanence aux patients qui sont souvent des gens très généreux, hein, qui adorent s'occuper des autres, qui adorent prendre soin d'eux, qui adorent être disponibles. Et puis, qui oublient de s'occuper d'eux, quoi. Et qui pensent que s'occuper d'eux, c'est de l'égoïsme. Plus tôt on est éduqué à ça, à dire « je m'occupe d'abord de moi et après je m'occuperai des autres », plus on est protégé, en fait, c'est surtout ça. Quand vous êtes dans un avion, on vous dit « avant de mettre le masque en cas de dépressurisation, avant de mettre le masque à votre enfant, vous mettez d'abord le vôtre. » Parce que si vous êtes évanoui, de toute façon, vous n'aiderez personne. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnes qui s'occupent des autres. Et donc, même les étudiants doivent apprendre à s'occuper d'eux, apprendre ces réflexes-là, de s'occuper d'eux, pour pouvoir s'occuper des autres après.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser une prise en charge ?
Oui. Oui, j'ai refusé en stage et à ma première année de post-diplôme. Pour différentes raisons, en stage, j'ai refusé de voir des hommes adultes la deuxième année parce que je ne me sentais pas prête. Je l'ai fait en première année, c'est quand même bien passé. Mais là, en deuxième année, en étant seule, je ne me sentais pas prête. Donc, j'ai décidé de ne pas suivre ce public parce que je voulais me concentrer sur d'autres. Et j'ai refusé de suivre des personnes parce que j'estimais que la relation qu'on avait n'était pas adéquate à un suivi psychologique. En fait, je travaillais dans une asso où je faisais un suivi psychologique, mais je les accompagnais aussi dans la vie de tous les jours. Donc les personnes que j'avais avec qui je faisais des entretiens, je les suivais un petit peu moins. En vie de tous les jours, c'est mes collègues, et d'autres plus. Et en fait, j'ai refusé parce que j'estimais que on était beaucoup trop proches dans la vie de tous les jours et que j'étais pas à l'aise, en fait. Parler autour d'un café et tout, ça, on le faisait déjà. Mais aller plus loin, je me sentais pas de le faire. Donc, j'ai dit non. Mais par contre, je buvais des cafés avec eux. Je leur parlais pas plus du tout ou quoi, mais juste je voulais pas aller dans plus loin que juste boire un café ensemble. Et je pense que c'est important aussi, et c'est quelque chose qui m'a rassurée aussi en master, quand on nous a dit que on a le droit de pas vouloir suivre quelqu'un et que c'est justement important pour le suivi. Et quand j'ai su que j'avais le droit de ne pas vouloir recevoir des hommes adultes, ça m'a fait un bien fou parce que j'allais pas me forcer à faire quelque chose où je me sentais pas de le faire. Et j'en ai parlé avec ma directrice, et elle m'a dit justement que c'était bien parce que je serais sûrement prête plus tard et que c'était bien que je connaisse mes limites et que je les respecte. Et je pense que quand on le sent pas avec un patient, j'ai toujours entendu qu'il fallait pas se forcer et que c'était pas bon pour les deux côtés, quoi. Parce que on est des humains et des fois il y a des gens qui nous sidèrent et c'est pas parce qu'on est psy qu'on doit tout mettre de côté et mettre de côté complètement ce qu'on ressent. Des fois on n'est juste pas capable de suivre une certaine personne et voilà, je pense qu'il faut l'accepter et il faut réorienter, quoi. Ce qui est bien, c'est que quand j'ai refusé de voir des personnes pendant que je bossais en asso, c'était pas directement à la personne, c'était à des gens justement qui me disaient « ça serait bien que tu suives cette personne ». Donc j'avais pas à le dire à la personne. Je justifie par ce que je vous ai dit, que je me sentais pas d'avoir ce type de relation, que j'en avais déjà une autre avec la personne et que celle qu'on avait, moi je pouvais pas aller du côté psycho. Enfin, je pense que ça peut être difficile quand on a par exemple entamé une sorte de lien, d'amitié presque, de devenir le psychologue. C'est un peu bizarre. Du coup, j'ai jamais eu à le dire à la personne. Ce qui est dur, c'est de dire quand le suivi s'arrête. Et ça, c'est très dur. C'est les moments les plus touchants et c'est, pour ma part, dans mon expérience, c'est les moments où il y a le plus de choses qui se passent, qui sont hyper intéressantes, tristes, mais intéressantes.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser une prise en charge, de refuser un patient ?
J'ai déjà refusé des patients, enfin qui me demandent pour leur entourage proche. Alors des fois j'ai accepté, mais j'ai refusé des demandes. Ça vient pas de la personne elle-même. Alors après en libéral, je refuse tout le temps des demandes. Il faut savoir dire non en tant que psy, justement, ça, on n'y pense pas trop quand on est psy, mais du coup je dis non tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. Oui, parce que du coup pas de place et parce que ça passe pas dans mon emploi du temps. Voilà, c'est pas contre la personne, mais c'est que j'ai pas de place. Et ça, c'est aussi le cas des fois en salarial. Enfin, et ça, par exemple, c'était un peu une surprise. Mais du coup, oui, je refuse parce que j'ai pas de place. Et sinon, concrètement, c'est plus. Je pense à un entretien qui s'est mal passé avec une patiente, un premier entretien, et où ça s'est tellement mal passé que je lui ai dit qu'en gros, c'était mieux qu'elle consulte un autre psychologue parce qu'avec moi, ça le faisait pas du tout. Et que du coup, bah, elle était dans l'attaque, dans une attaque continuelle. Mais du coup, je l'ai pas refusé à la base. Et en plus, je lui ai pas dit en gros, vous revenez pas. Et c'est comme ça. Enfin, je vais partager mes ressentis, etc. Mais non, enfin, je pense pas avoir refusé des patients. Après, moi, dans ma pratique libérale, je ne pratique plus ou très peu auprès de patients mineurs. Donc ça, c'est un choix. Mais voilà, c'est pas, enfin, c'est entre guillemets, c'est pas contre la personne, c'est plus par rapport à des caractéristiques de population, par rapport à l'âge. Je refuse parce que je m'estime pas assez formé sur les patients mineurs, surtout sur les enfants. Je trouve que je suis pas assez formé sur diverses pathologies problématiques. Et aussi parce que je suis moins à l'aise, mais surtout parce que je ne me trouve pas assez formé et qu'il y a d'autres psychologues qui sont selon moi plus formés sur ces questions-là que moi.
Face à une difficulté ou une patiente, alors, soit on a mis des exemples qui partagent peut-être pas du tout les mêmes valeurs que toi, ou juste là, tu parlais de moments de vie aussi, peut-être, où tu es moins disponible. Pour X ou Y raison, en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser une prise en charge ?
Je suis en train de scanner. Bah, je vais être transparent. Je pense que ça ne m'est pas arrivé, mais je pense que j'aurais dû. Parce que je pense qu'il y a des prises en charge que j'ai plantées, on va dire ça comme ça, pas très élégant. Mais je pense qu'il y a des prises en charge, ou on dit des prises en soins maintenant. Mais bon. Qu'on pas du tout été bonnes, pas du fait du patient, hein, qui lui faisait du mieux qu'il pouvait, mais de moi, qui n'était pas disponible à ce moment-là. J'allais dans mon ancien lycée, on me demandait de parler un peu de mon travail, là, quand il faisait des journées de l'emploi. Et souvent, la question des lycéens, c'était « Ah, racontez-nous un truc horrible qu'on vous a raconté. » Et en fait, je les décevais systématiquement. Mais j'avais pour habitude de dire qu'une des phrases les plus terribles que j'avais entendu dire par une patiente, c'était une femme qui était mère d'une adolescente et qui avait dit « Ma fille, je l'aimerai quand elle m'aimera. » Et j'avais trouvé ça vraiment terrible. Et clairement, alors pour reprendre des termes psychanalytiques, mon contre-transfert à ce moment-là n'était pas bon. Hein, et ça s'est terminé peu de temps après. Parce que au lieu de me dire qu'est-ce qui réagit en toi, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, qu'est-ce qui fait que ça, c'est pas entendable, finalement, j'ai été dans le jugement. Donc j'ai été lui dire... Je ne sais plus comment je lui ai dit, mais enfin, clairement, le message que je lui ai fait passer, c'était qu'on ne pouvait pas dire ça quand on était mère. Quoi. Et sauf qu'en faisant ça, je ferme toutes les portes. C'est-à-dire que non seulement ma prise en charge à moi va se terminer, et elle s'est terminée, mais en plus, je grille un certain nombre de chances pour cette personne de faire l'expérience d'une thérapie qui se passerait bien, à quelqu'un qui serait capable... plus que moi, d'accueillir tout ça. Parce que elle va rentrer chez elle en disant « Les psys, ils jugent. Les psys, ils sont, ils donnent des leçons. » Et elle va pas y retourner, quoi, si je fais ça. En tout cas, voilà, on peut être optimiste et se dire « Ça a peut-être, au contraire, permis de débloquer quelque chose et elle avait peut-être besoin de l'entendre, etc. » Bon, ça, c'est un peu la version optimiste, quoi. J'en sais rien, au fond. Hein. Mais plus probablement, j'ai fait ce que d'autres ont fait. J'ai pas eu cette plus-value d'être capable d'entendre ça sans juger à ce moment-là. Je lui ai renvoyé un truc négatif et elle va se dire je suis jugé partout en fait. Personne ne peut m'aider, quoi. Si même le psy, il me dit que je suis mauvaise, enfin, c'est...
Nous voici à la fin de ce deuxième épisode. Il était dédié à l'équilibre du psychologue entre son engagement, sa manière de s'exposer aux personnes qui l'accompagnent, et d'un autre côté, la manière dont il prend soin de lui. Un grand merci à nos invités pour leur contribution. Si cette écoute vous a plu, nous vous invitons chaleureusement à faire parvenir ce podcast aux oreilles les plus curieuses et surtout les plus concernées. Bien sûr, nous retrouvons les trois voix d'Ember, de Florian et de Romain dans le prochain épisode. Ils et elles s'exprimeront autour de la question de la nécessité d'un cadre, à la fois pour les patients et pour évoluer dans les institutions. Merci de la part de toute l'équipe pour votre écoute et à bientôt sur notre podcast Singulièrement Psy.